RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Écoutez, je vais vous lire un poème, je ne vous dis pas de qui c'est. Hein, c'est à vous de deviner. Voilà. Il faut peut-être travailler un petit peu, là, les chères auditrices, auditeurs. Hein, faut pas rester là, le cul assis sur sa chaise, à m'écouter sans rien faire. Hein, bon, quand même. Hein, faut travailler. Alors, je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis fait comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois, je suis comme je suis. Je suis fait comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis fait pour plaire. Je ne puis rien changer. Mes talons sont trop hauts. Ma taille trop cambrée. Mes seins beaucoup trop durs, et mes yeux trop cernés. Et puis après, que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui s'aiment. Simplement, savant aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Je n'ai plus rien changé. Bon alors vous avez vu, parce que j'ai utilisé du masculin et du féminin. En final, ce n'était que du féminin dans cette prose. Oui, mais moi j'ai voulu essayer de le masculiniser, comme on dit, faire croire que c'est moi, Maurice Meulier, un mâle. Hein, et final, je suis pas arrivé. Et de temps en temps, j'ai mis la féminité qu'il y a vraiment dans ce poème. Bon allez, alors. C'est dans un livre qui s'appelle « Paroles » et c'est de Jacques Prévert. Voilà, ouais, voilà. Et alors, je l'ai aussi sur un CD. Et là, c'est une femme qui parle. Et là, ça paraît tout à fait naturel, puisque c'est une femme qui raconte quelque part. Hein, voilà, hein, je suis comme je suis. Mais moi aussi, je suis comme je suis. Et je suis bien comme je suis, voilà. Et je resterai comme je suis. Et des fois, j'essuie la vaisselle quand elle a été lavée. Oui, oui. Et j'enlève la suie de la cheminée. Ouais. Et je suis comme je suis. Ouais. Et des fois, je suis les femmes dans la rue. Ouais. Et des fois, c'est mon chien qui me suit. Ouais. Vous voyez, je viens de faire un poème, là. Sans l'avoir écrit. Ce qui veut dire que dans 5 minutes, je ne m'en rappellerai même plus. Donc, si, parce que c'est enregistré. C'est enregistré. Donc, je vais pouvoir peut-être le recopier. Et puis on rajoutait encore des « suis ». Ouais, des « je suis », des « tu es », des « ils sont », et des « vous êtes peut-être plus « suis » que moi ». Hein ? D'accord ? Bon. Eh bien, attendez, faites un peu ce jeu-là, vous. Hein ? Et envoyez-le à la radio, et je vous les lirai. Alors mettez votre nom, surtout. Hein. Toi, Jacqueline, c'est pas peine de mettre ton nom, je sais que tu y arriveras pas. Bon, c'est bien, j'ai voulu te faire écrire, et tu sais pas écrire. Tu sais que crier. C'est pas normal, ça. Hein, bon. Mais bon, tant pis, les autres, ils peuvent essayer, les autres. Hein. Moi, j'aime bien quand les autres, ils m'envoient des poèmes comme ça. Hein. Voilà, bon. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. On va se passer un petit Bob Marley, en l'honneur de quelqu'un qui a édité un livre sur Bob Marley et sur le reggae, qui s'appelle Bruno Blum.
Fight again.
Alors, chers amis, j'ai la chance d'avoir un livre sur les poètes du Sénégal. Ouais. Et je vais donc vous en lire un. Alors, il y a Birago Diop. Alors, Birago Diop, il est né le 12 décembre 1906. Il était docteur vétérinaire et ancien ambassadeur. Vous voyez, même les vétérinaires savent écrire, hein, c'est normal. Ils ne savent pas que soigner les animaux. Hein. Et je vais donc vous lire, alors, ça s'appelle Cassac. Et il a été offert, ce poème, à Léopold Sédar Senghor. Bon, ça vous parle peut-être un peu plus. La terre saigne, comme saigne un sein, d'où coule du lait, couleur du couchant. Le lait est rouge, du sable sourd du sang. Le ciel pleure comme pleure un enfant. Qui donc s'était servi du sinistre hoyo? C'est une sorte de flûte. Hein. L'onde se plaint au plongeon de la pagaie, la pirogue geint, l'étreinte de l'eau. Hyène s'est piqué au passage de la haie, et corbeau a cassé sa plume dans la plaie. Qui donc s'était donc servi du sinistre hoyo? Le berger a blessé sur, par la pointe de la sagaie l'échine souple du frère de la savane, et plus rien n'est resté de tout son beau troupeau, ni taureau, ni génisse, ni jeune veau. Mais qui donc s'était servi du sinistre Oyou? Voilà. Hein. Alors, bon, la flûte, c'est pas la flûte qui a tué quand même le troupeau, bon, je suppose du moins. Sinon, ça serait grave hein, si une flûte pouvait faire ça. Hein. Et là, on va retourner avec notre ami Victor Hugo. Oui. Et alors, comme on est au printemps, je vais vous lire un poème, il a écrit Printemps. Il a écrit en 1859. C'est la jeunesse, et le matin, vois donc, ô ma belle farouche, partout des perles, dans le thym, dans les roses et dans ta bouche. L'infini n'a rien d'effrayant, l'azur sourit à la chaumière, et la terre est heureuse, ayant confiance dans la lumière. Quand le soir vient, le soir profond, les fleurs se ferment sous les branches, ces petites âmes s'en vont au fond de leur alcôve blanche. Elles s'endorment, et la nuit a beau tomber noire et glacée, tout le monde des fleurs qui luit et qui ne vit que le rosé. L'œillet, le jasmin, le genêt, le trèfle, incarnat qu'avril d'or, et tranquille car il connaît l'exactitude de l'aurore. Voilà, c'est beau, hein. Bah, c'est normal, hein. C'est du Victor, hein. Ah ouais, Victor, attention, c'est un sacré mec, hein. Alors, on va passer allez, Arthur, hein. Arthur Hugo. Excusez-moi, Arthur Rimbaud. Faut pas déconner, non, hein. On va quand même pas les mélanger, hein. Alors, figurez-vous que, je sais pas s'il a copié sur Villon, mais il a un poème qui s'appelle Le bal des pendus. Vous savez, les pendus de Villon, hein. C'est connu, ce poème-là aussi, hein. Au gibet noir, manchot aimable, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire Belzébuth tire par la cravate ses petits pantins noirs, grimaçant sur le ciel. Et, leur claquant au front d'un revers de savate, les fait danser au son d'un vieux Noël. Ça existait déjà, Noël, à l'époque? Bon. Et les pantins, choqués, enlacent leurs bras grêles, comme les orgues noirs, les poitrines à jour, que serraient autrefois les jantes damoiselles, se heurtent longuement dans un hideux amour. Hurrah ! Les gais danseurs, qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs, hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse, Belzébuth enragé racle ses violons. Oh, dur talon ! Jamais on use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau. Le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées. Un morceau de chair tremble à leur maigre menton. On dirait, tournoyant dans les sombres mêlées, des preux raides heurtant armure de carton. Hurrah ! La bise siffle au grand bal des squelettes. Le gibet noir mugit comme un orgue de fer. Les loups vont répondant aux des forêts violettes. À l'horizon, le ciel est d'un rouge d'enfer. Hola ! Secouez-moi ces capitans funèbres qui défilent sournois de leurs gros doigts cassés, un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier ici des trépassés. Oh ! Voilà qu'au milieu de la danse macabre, bondit dans un ciel rouge un grand squelette fou, emporté par l'élan comme un cheval se cabre et se sentant encore la corde raide au cou. Crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque, avec des cris pareils à des ricanements, et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal au chant des ossements. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Voilà. C'est beau, hein? Bon, c'est un peu tristounet, bon, c'est un peu macabre, mais bon. Hein? Bon, vous savez, là, j'aurais pu vous lire aussi la danse macabre de Saint-Saëns. Non, c'est pas de la musique, c'est pas de la littérature, c'est de la musique. Saint-Saëns, ouais, Saint-Saëns. Et c'est le sens de quel sens, hein? Hein? C'est le Sansonnet. Non, bon, allez. Tiens, j'avais même pas vu que j'avais, vous savez, ces petits cordons dans les livres. Alors j'avais mis un marque-page alors que j'ai un beau petit cordon vert, hein, que j'aurais pu mettre pour marquer la page de ce fameux poème de Rimbaud, vous voyez. Et alors ce livre a été fait quand? J'aime bien vous donner la date du livre parce que c'est vachement important. Hein. Encore un qui ne mette pas... Ah si, en 1969. Bon, alors Rimbaud, il y a longtemps qu'il avait cassé sa pipe. Hein. D'abord, je ne sais même pas s'il fumait la pipe. Hein. Bon. Peut-être. Peut-être. Bon, il a dû fumer parce que il paraît qu'il transportait de la drogue. Alors, la fumette a dû marcher aussi avec lui. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est mort assez jeune, hein, aussi. Ah oui, à force de fumer. Hein. On ne fume pas impunément. Hein. Hein. Alors, je vais vous lire le second sommeil de Jeannot. Et quand je vous dis Jeannot, naturellement, c'est Bouchu. Hein. C'est M. Bouchu. Et ce fut écrit... en 2017, et en fait c'est parce que j'avais retrouvé sur un vieux carnet de 2017 dans un tiroir, Dojo de Coulny-Chamier, ça j'ai pas compris pourquoi, bon, et donc je raconte un petit peu son histoire à lui, hein. Voilà, parce que naturellement il s'est endormi en 2012, hein. Malheureusement, janvier 2012, et il est parti dans sa résidence secondaire avec sa mère, son père et une tante. Hein. Ah ouais, parce qu'il y avait 4 places dans sa résidence secondaire. Ouais. Donc on ne pouvait pas en mettre d'autres. Et puis comme il n'a pas eu d'enfant, ça tombe bien. Donc il n'avait pas besoin d'une 5e place. Hein. Pardonne-moi, Jeannot. Ta deuxième Joséphine Baker, version africaine, m'a supplié de vider ton passé simple. Mais tellement émouvant du garage pour mettre à l'abri sa moka des regards et des gouttes d'eau. Alors, ça, la deuxième Joséphine Baker, c'est ma fille adoptive qui est africaine, voilà. Qui était sympa avec lui parce qu'elle allait lui faire son ménage et tout, elle allait lui porter des fois à manger et tout, donc elle était vraiment sympa. Et j'avais tellement d'archives de Jeannot, hein, que le garage en était plein. Et ma fille venait de s'acheter une nouvelle voiture, la Moka, c'est une, je sais plus ce que c'est comme marque, hein. Et ben, elle voulait la mettre à l'abri. Voilà. Et pourtant, je voulais conserver tes archives pour les faire vieillir au gré du temps de tes relire et de les relire. Tes mots, tes colères et tes amours referont du papier à prose bien torché. Malgré mes interdits de toucher à ton passé au plus profond de toi-même, j'ai cédé à la demande d'une princesse africaine qui prend l'or pour du bon pain. Mais rassure-toi, j'ai caché le plus tendre, le plus fort, le plus beau de tes poèmes avec rimes et pieds beaux. Je relirai tout ce trésor pour toi, afin de le faire entendre encore une fois, voire plusieurs fois malgré tes oreilles bouchées par les trompettes de la renommée, au temps de ta splendeur et de tes beaux pieds de nez. Notre ami Kenbe est venu vers toi. Ouais. C'est-à-dire que un deuxième copain des hydropathes, bah, il est parti le voir au paradis aussi. Bon. Dis-moi ce que vous lisez maintenant, dans que votre temps vous laisse rêver. Cher Baladouce est aussi près de vous, malgré les notes de piano qu'il avait à nous offrir de son vivant, avec des gamboys aux formes mélodieuses. Troisième copain passé à l'arme gauche. Pourquoi il n'a pas fait son service militaire? Vider pour nous des derniers hydropathes, restant encore sur terre une bonne bouteille en attendant que nous reformions une bonne équipe d'hydro du village par Cassiopée. Alors, hydro du village, vous avez compris, c'est un jeu de mots. Hein. Bon. Cherche-nous un deuxième à l'Arnotte, pas trop loin du simple d'esprit et de l'ange à quatre pattes. Voilà, mon Jeannot, je voulais te prévenir avant que l'un de nous te vous rejoigne pour ne pas être surpris et triste de ce massacre de vers et de mots de pied. Hein. J'ai mis en lieu sûr sur l'ensemble de tes livres, sur Pierre Fonlac, qui a maintenant une médiathèque, mots à la mode, depuis que le pixel remplace l'encrier et la virgule. Parce qu'avant, ça s'appelait une bibliothèque. Hein. Voilà. Chabat est très proche de toi, avec aussi une plaque crue de la sagesse. Là où il nous lançait des glands et des cacahuètes de sa fenêtre, juste en face de celle de l'Arnotte, comme à des singes savant lire dans le houblon et dans l'absinthe, pas encore trop dépucelé. Prépare notre arrivée en louant la fanfare et les flonflons. Nous arriverons à notre dispersée, voire un à un, mais on ne sait pas encore à quelle heure. Hein. Et si possible, mais juste avant la distribution, des hosties du 45 avec des seins glacés qui aiment danser dans les verres de petits jaunes bien torchés. Alors il aimait bien le pastis, bon, voilà, c'était sa boisson préférée. Bon, c'est pas un vice, hein, c'est normal, c'est naturel. Bon. Allez, Jeannot, j'arrête là ma tirade des verres de nez en te souhaitant une bonne santé. Et un de ces jours, mais pas maintenant, hein, voilà. Eh oui, alors c'est bon, c'est vrai que c'est un... Comment on pourrait appeler ça, un hommage je sais pas, un peu, comment on appelle ça, les oraisons funèbres, hein, ou oraisons funestes, comme vous voulez. Hein. Mais bon, c'est normal, les copains, ils sont toujours vivants dans votre tête, ils sont toujours vivants, vous avez des souvenirs avec eux, hein. Vous avez écrit, vous avez bu, vous avez mangé, hein. Vous avez des fois pété ensemble, hein. Ben oui, quand même, hein. Allez, tiens, un petit Bob Marley. Allez, c'est du soul. Ça, le nidon. Voilà notre ami Bob Marley. Alors, vous savez, j'ai vécu 4 ans en Guadeloupe, de 1980 à moitié 85 à peu près, 1985. Et ça faisait quelques années qu'il était mort, mais c'était un peu comme un anniversaire. Et quand on allait en boîte de nuit, on avait le droit du Bob Marley, mais alors, vraiment. Et je peux vous dire que c'est vachement entraînant pour danser. Parce qu'en plus, le rythme vous permet de faire n'importe quoi, de danser n'importe quoi, mais vous êtes au rythme de Bob Marley, voilà. Hein. Et tout le monde dansait, tout le monde, il y avait, tous les gens se levaient pour danser. Bon, alors, je veux dire qu'il y avait, dans la boîte de nuit, il y avait 150 Guadeloupéens, puis deux métropolitains, on ne dit pas deux Français, parce qu'ils sont aussi Français que nous. Hein. Deux métropolitains, il y avait ma femme et moi, quoi, en fait, hein, souvent. Puis des fois, un copain aussi, voilà. Je reviens à mes poèmes. Alors là, ce coup-ci, c'est... Il était écrit à l'île d'Oléron. Voilà. Le vrai faux rêve. Donc il est de moi, bien sûr. Hein, parce qu'il y a moi qui fais des vrais faux rêves. J'avais enfin franchi la barrière de mes vrais faux rêves. Je voyais le jour les étoiles, la nuit le soleil. Puis entre chiens et louves, j'avais un rêve fou. Je voyais une étoile qui rêvait... De rêver de jour, j'épiais une nuée de soleil qui regardait les étoiles du matin en montant au-dessus de l'océan. Fallait-il aller jusqu'au bout de la jetée, où rien ne s'y passe vraiment, sinon pour voir les goélands se baigner dans un soleil se couchant. Des gnomes stériles tentaient de les attraper avec des filets d'argent encore frais. Je venais de reprendre sous le comptoir un faux rêve. Il me faudra dormir au fond de la mer, avec juste une raie de lumière allant vers elle et un dictionnaire palmé de vrais rêves. Voilà, ce fut écrit le dimanche 4 novembre 2001 à 14h20. Voilà. Donc vous voyez, 2001, hein, ça fait 25 ans. Dis donc, oh là là, que c'est beau d'avoir encore des poèmes de cette époque-là. Alors mon premier poème, il a été écrit en novembre 1999. Vous vous rendez compte, hein? Un mois, deux mois avant la tempête, voilà. Hein. Et alors, je crois qu'on est presque sur le début de mon émission. Sur la fin de mon émission. Et j'ai le temps de lire un poème. Et il me reste 5 minutes. Oh, 5 minutes de bonheur avec vous. Oh là là. Allez, tiens, un boussuge. Facteur gitan. Parce que Jeannot, il a été facteur à Paris, à Ménilmontant. Et après, à Chamiers, quand il est revenu sur Périgueux. Ouais. Mon pote le gitan, qui était facteur, malsé tout seul avec mon malheur. Maintenant qu'il est parti vers je ne sais quel pays, je me sens bien seul sans lui. Jamais je n'oublierai de ma vie. Mon pote le gitan, qui était facteur, comme tous les gitans, il était secret, et même étranger quand on le connaissait. Comment il choisit ses amis, jamais il ne me l'a dit. Pourtant, son choix était très bien fait. Ses amis sont très faciles à compter. Avec nous, il était comme frère et sœur. Mon pote le gitan qui était facteur, il n'a jamais pu se plaire à Paris. Pour lui, le ciel était toujours gris. C'est pour ça qu'il y avait toujours avec lui des gars du midi qui le comprenaient. Mon pote le gitan qui était facteur, comme tous les gitans, il n'est pas resté longtemps. Quand on a dit au revoir à Georges, des 5 billards et même à Catus, personne ne l'a cru. Mon pote le gitan qui était facteur nous a laissé un grand vide au cœur. J'espère qu'un jour, en l'entendant, cette chanson, il nous reviendra, car nous l'attendons. Alors chez Catus, nous recommencerons à boire, à chanter, à s'amuser, jusqu'à ce que l'on en meure avec mon pote le gitan qui était facteur. C'est beau, hein? Alors c'est vrai qu'un gitan facteur, c'est rare, hein? Même facteur d'orgue, hein? Ah non, c'est rare aussi, hein? Ouais, ouais. Mais c'est normal, hein? Les gitans, normalement, c'est ceux qui vont vous piquer du cuivre un peu partout, hein, essayer de vous vendre de la vannerie, vous voyez? Les dames, elles passent avec des paniers en osier... alors il y a les nouveaux maintenant qui ont compris ce qui marchait bien, c'est ils ont une espèce de karcher avec un produit exprès Vous nettoyez les murs, les sols, vous voyez, il passe comme ça, ouais. Et il regarde bien comment la maison est faite pour savoir si on peut passer par là ou là, parce que c'est des entrepreneurs, hein, les gitans. Ah, ils se laissent pas aller, hein. Ah non, ils se laissent pas aller. Hein. Alors, il y en a qui disent qu'ils ont raison. Moi, je dis qu'ils n'ont pas raison, parce que s'ils piquent le bonheur des autres, non, non. Par contre, on peut faire un effort, c'est-à-dire leur piquer leur bonheur. Hein. Comme ça, on prend leur bonheur et nous, on est aussi heureux. Hein. Non, je dis des conneries, là, j'arrête. Allez. Parce que là, je dérive. Je dérive comme un bateau qui n'a plus de gouvernail. Vous voyez, hein. Et voilà, c'est un peu ça. Bon. Donc, je vais être obligé de vous dire au revoir. Non. Non, je ne peux pas encore. Je peux pas encore vous dire au revoir, il reste 2 minutes. Et je ne peux pas vous lire un poème, parce que le prochain poème que j'ai, il fait 5 heures. Ouais, un poème qui fait 5 heures, je ne vous dis pas. Hein. Alors, je suis obligé de venir combien 10 fois pour vous le lire. 10 fois une demi-heure pour vous le lire. Bah, vous allez vous lasser. Au bout de la troisième demi-heure, vous allez dire, il me fait chier ce mec-là. Ce poète-poète, ouais. Ce poète-poète, ouais. Parce qu'on nous appelle aussi comme ça, hein, poète-poète, ouais. Ce qui fait qu'on est 2 fois poète. Poète-poète. Bon, allez, Jacqueline, qu'est-ce que tu vas me faire à manger, là? Encore des ortolans fricassés? Mais où est-ce que tu vas les chercher? Tu sais bien que ça n'existe plus, ce petit oiseau, là. Et puis c'est interdit, maintenant, de les tuer, les ortolans fricassés. Tu le sais, ça, hein? Avant, il y en avait plein en Gironde. Maintenant, il n'y en a plus un seul, parce que les chasseurs les tuent pour les manger. Ah non, mais je te préviens que si tu fais des ortolans fricassés, je te quitte. Hein? Ça sera terminé entre nous deux. Je te préviens tout de suite. Hein? Bon. Arrête un peu tes conneries. C'est ça que tu veux? Qu'on se sépare? Hein? Tu veux plus écouter ma poésie? Eh ben, d'accord, tu vas voir. Alors, tu me fais des frites belges avec une petite mayonnaise et puis des petits morceaux de lardon dedans. Tu vois? Hein? Et là, je pense qu'on pourra continuer à s'aimer. Ouais. Hein? D'accord? Bon. Alors, c'est bien, t'es gentil. Tu vas me le faire. Bon, ça va alors. Et ne me parle plus d'ortolans fricassés. Hein. Surtout, arrête. Hein. Parce que sinon, moi, je ne te fais plus écouter ma poésie non plus. Hein. Je te coupe. Tu ne pourras plus être en direct avec moi. Hein. Ah oui? Tu es la seule. Tu te rends compte le bonheur que tu as d'être la seule de mes auditrices? Alors, arrête, hein, tes conneries. Hein. Allez, je vous quitte et je vous aime toutes. Ouais.